Plateforme. Les arts et lettres.
Cinémathèque de Toulouse. Festival Zoom arrière avec Peplum. L'antiquité au cinéma, forme, histoire, représentation. Troisième partie. Le documentaire fiction, un organisme génétiquement modifié. Avec Robert Sablarol.
Quelques mots, si vous le voulez bien, pour introduire le contenu de cette demi-journée, qui est en même temps la troisième session du colloque. Peut-être vous rappelez-vous que hier, lors des deux premières sessions, nous avons tenté d'analyser les rapports entre le péplum, donc un objet cinématographique, et l'Antiquité de deux points de vue. D'abord en posant la question du genre. Est-ce que le péplum est un genre cinématographique et quelle place prend-il par rapport à d'autres genres dans l'histoire du cinéma ? Et nous avons essayé, d'autre part, dans la deuxième session de l'après-midi, de mesurer quel rapport pouvait s'instaurer entre l'Antiquité et la modernité. Donc, c'est surtout l'objet péplum en lui-même qui était au centre de nos débats d'hier, en tant que un produit, une production culturelle moderne, contemporaine. L'accent va se trouver déplacé dans la session de ce matin, puisque nous allons nous demander ce qu'il advient, finalement, des données de l'histoire ancienne à l'intérieur même du péplum. Comment l'histoire ancienne se trouve-t-elle élaborée, réélaborée, absorbée à l'intérieur du péplum ? Et nous avons retenu, lors de la préparation du programme de ce colloque, un titre un peu provocateur que vous avez sous les yeux, je pense. L'histoire est-elle soluble dans le péplum et vice-versa ? Pour tenter d'y voir un peu plus clair dans ce problème qui hante évidemment les historiens ou les spécialistes de l'Antiquité, tout d'abord, Robert Sablarol va intervenir dans un instant sur finalement une expérience qu'il a eue lui-même de conseiller scientifique. Et il était là en tant que celui qui apporte les données archéologiques dans tous les sens du terme pour permettre aux réalisateurs, prétendument, d'éviter les faux pas sur le plan historique. Ça, c'était la théorie, c'était le contrat avant que tout ne commence. Dans la réalité, les choses se sont passées un petit peu différemment et c'est l'occasion pour moi de le remercier d'avoir accepté de nous livrer son expérience personnelle sur cette donnée-là. Robert Sablarol est professeur d'archéologie émérite à l'université de Toulouse 2. C'est aussi conjointement un grand historien de Rome. Il a produit en particulier un livre monumental dans tous les sens du terme, et d'abord sur le plan scientifique, sur les cohortes des vigiles, et il connaît particulièrement bien les sources anciennes. Il était donc le plus qualifié qu'il soit pour être le conseiller scientifique de la série documentaire qu'il va nous présenter dans un instant.
Bien, merci beaucoup Pascal, merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de retrouver des collègues pour lesquels on a de l'estime intellectuelle et de l'amitié dans le cadre d'un débat scientifique, puisque, comme l'a dit Pascal, j'ai quitté l'université il y a un an et demi, sans déplaisir. Alors, les quelques réflexions que je vais vous proposer avec quelques petits extraits de films reposent donc des réflexions sur le documentaire fiction. Qui est convenu d'appeler le documentaire fiction. Elle repose sur l'expérience de consultant scientifique que Pascal a évoquée. Ça s'est passé entre 2003 et 2004. J'ai été contacté par un monsieur qui s'appelle Frédéric Lepage, qui était, m'a-t-il dit, documentaire animalier, ce que j'ignorais, et ça a eu l'air de le vexer un petit peu que je ne le sache pas. Il appartenait à un groupe qui s'appelait Prime Group, et le réalisateur du film, c'est Robert Kechichian. Enfin, du documentaire, disons. Il y avait plusieurs télévisions intéressées à l'affaire, France 3, La 5 et la RAI italienne. Et donc, j'étais le consultant scientifique, puisque j'avais écrit, comme l'a dit Pascal, un livre sur les vigiles, publié en 1996 dans les collections de l'École française de Rome. Alors, je garde de l'expérience un souvenir mitigé, partagé entre le plaisir de la découverte d'un univers dont j'ignorais pratiquement tout, et un certain nombre de déceptions auxquelles je m'attendais plus ou moins. Et donc je porte sur le résultat un jugement plutôt critique, et qui fera l'objet de la première partie de l'exposé. Dans la seconde, nous parlerons de quelque chose à quoi je n'ai nullement participé, mais que j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai intitulé mon propos « Un organisme génétiquement modifié » parce que le documentaire en fiction sur l'Antiquité s'appuie naturellement, il peut difficilement faire autrement, même s'il s'en défend, sur la tradition du péplum. En revanche, le postulat implicitement contenu dans le terme « documentaire » revient à évoquer une pédagogie, ce qui suppose une information vérifiée que l'on souhaite aussi fidèle que possible à ce que l'on peut reconstruire de la réalité antique. Le documentaire fiction est donc un intermédiaire, un hybride, si vous voulez, entre recherche austère, pas toujours plaisante à consulter, et sans doute illisible dans son intégralité, c'est à mon ouvrage que je pense, et un divertissement par le biais d'une aventure, évidemment de fiction, mais placée dans un cadre qui se veut une vraie image de Rome, si ce terme de « vrai » peut avoir un sens, ce que je ne crois pas. Je pense que l'histoire et l'archéologie sont des techniques ou des sciences, pour ne pas blesser l'ego de collègues qui pensent que c'est mieux d'être une science. Bon, peu importe, l'histoire et l'archéologie sont, l'une comme l'autre, en fin de recherche, un discours. On raconte une histoire à partir de l'archéologie ou à partir des données d'histoire. Et donc, un discours, c'est toujours une reconstruction forcément aléatoire. Bon, ces précautions de base étant prises, je vous propose de parler donc du documentaire fiction et la recherche du vrai. Donc même si c'est une quête de l'irréalisable, un petit peu comme le Graal des Monty Python, elle n'est pas sans intérêt. Les gens qui m'avaient contacté ont mis en œuvre une assez longue recherche préalable. Ils avaient embauché des étudiants qui avaient épluché les textes de Tacite, de Suétone, qui avaient lu pour une malheureuse jeune fille mon ouvrage en entier. J'ai échangé avec ces gens-là. Ça, c'était assez positif, et donc on m'a demandé de corriger le scénario. Bon, ça s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire qu'ils ont acquiescé un certain nombre de demandes, mais la relation consultant-scénariste n'était pas toujours facile. Je vais vous donner un exemple. Un jour, le scénariste m'a appelé en me disant « J'ai eu une idée, on va mettre un noir dans les cours de vigile ». Alors je lui dis, ça ne me paraît pas une très bonne idée, parce que les esclaves noirs sont des esclaves très chers à Rome, et si on les a franchis, on ne va pas les mettre dans les cohortes de vigile, on va les utiliser autre chose. Il me dit, si, ça va être bien, la nuit, on va lui dire, mais toi, on ne te voit pas. Enfin, je trouve ça un peu douteux comme raison. Bref, il a fallu que je finisse par lui dire, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais vous enlevez mon nom. Parce que si mes collègues historiens ou archéologues voient un vigile noir, ils vont se demander ce que je suis venu faire et pourquoi j'ai été payé. Donc la nature de l'échange n'est pas toujours facile. Là, j'ai eu gain de cause, mais par exemple, j'ai découvert après coup le titre du film, que je trouve très mauvais, « Brûler Rome », parce que c'est partir du thème de qui a allumé l'incendie de 64, sans doute personne, hein, c'est probablement parti tout seul, et si à la limite il fallait chercher le coupable le plus plausible, c'est vrai que ce sont plutôt les chrétiens qui constituaient à ce moment-là une secte honnie de marginaux, que Néron, qui n'était pas là au demeurant et qui finalement en a eu plus d'ennui que de profit. De la même façon, je trouve totalement invraisemblable, je ne vous la passerai pas, la happy end indispensable au documentaire fiction, qui fait que pour que le vigile amoureux d'une esclave puisse l'épouser et se retrouver avec elle dans un paysage idyllique de la campagne romaine, à l'issue de l'incendie, qui est celui de 64, les deux héros sont récompensés par l'empereur de la missio, c'est-à-dire il leur donne congé avant le terme de leur service, puisqu'ils n'ont que 3 ans de service, avec tous les avantages qui vont avec. N'importe quel administrateur politique de n'importe quel État, quand il a des bons soldats, il les garde. Il va leur donner des récompenses, il va leur donner de l'argent, il va leur donner des avantages, mais il ne va pas leur donner le congé. C'est totalement invraisemblable. Bon, c'est l'inconvénient de céder au péplum. Et dernière chose, le consultant scientifique, c'est au fond une des grandes leçons que j'en ai retirées, c'est un Kleenex. C'est-à-dire quelque chose qu'on jette après usage. Ce qui veut dire que la relecture que j'avais demandée J'avais dit, j'avais exigé ça au départ. J'avais dit, moi, je veux bien, mais il y a une chose que je veux qu'on fasse à tout prix, c'est une relecture du montage avant, juste avant sa publication, comme on relit un manuscrit. Ça n'a jamais été fait. Et donc, il reste un certain nombre de bourdes inévitables. De la même façon, ensuite, je n'ai jamais été prévenu du moment où c'est passé à la télévision. Heureusement, j'avais une collègue plus attentive que moi qui avait enregistré la chose et qui me l'a passée. Sinon, je n'aurais jamais eu non plus de documents là-dessus. Donc, une fois qu'on a été utilisé, on passe à la poubelle de l'histoire. Partons de ce que le documentaire peut avoir de positif. Il y a des choses intéressantes, comme les recherches qui ont été faites sur les sites, en particulier sur le site de la caserne d'Ostie, où il y a des inscriptions relatives au vigile que vous allez voir.
Des noms gravés dans la pierre. Des graffitis sur les murs d'une caserne.
Et
des lettres tracées dans la brique à la pointe.
Et ces inscriptions ont été reprises dans le film et utilisées en particulier pour donner le nom aux deux.
Et Théséus. Des milliers de jeunes affranchis se sont enrôlés chez les vigiles dans l'espoir, par exemple,
là,
de léguer leurs biens à leurs enfants,
l'original en haut,
au lieu qu'ils soient transmis à leur ancien maître, comme pour les affranchis ordinaires.
Toujours dans ce qui m'apparaît comme positif, mais là, c'est plus difficile. C'est le fait qu'on ait choisi de faire parler les personnages en latin. J'ai coupé l'extrait, parce que je suis stressé par la présence de Pascal qui commence à regarder l'heure. Parler en latin, au départ, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Hein. Et de fait, quand on écoute l'accent de cette prononciation qui est évidemment restituée, hein, qui n'est pas forcément exactement la façon dont parlait l'Antiquité, ça n'est pas désagréable. Mais le genre cinématographique documentaire fiction présente un inconvénient. C'est que vous avez trois niveaux de lecture, comme on va le voir dans l'extrait suivant. On entend les gens parler. Très bien. Il y a un sous-titre parce que tout le monde ne parle pas latin. C'est vrai. Mais en plus, il y a de temps en temps la voix off qui vient nous expliquer ce qu'on doit comprendre. Alors ça brouille un peu le message et on ne sait plus très bien lequel écouter.
En 61, quelques-uns des hommes que nous avons vus se battre contre le feu ne sont pas encore des vigiles. Aujourd'hui, jour de recrutement, ils espèrent le devenir.
Ce sont les deux héros du film, les deux vigiles.
Depuis que leur corps a été constitué par Auguste en l'an 6, les pompiers de Rome sont recrutés parmi les...
Vous voyez que dès que la voix off arrive, hein, on perd un petit peu la suite du dialogue et c'est sans doute regrettable sur le plan de la cohérence de l'histoire. Autre point intéressant, alors là ça a été au fond de l'archéologie expérimentale, une forme de recherche. On s'est interrogé sur la tenue qu'avaient les vigiles puisqu'on n'a aucune image de l'Antiquité. Et les textes sont assez courts là-dessus. On les appelait les Spartéoli, ça vient de Spartum, le Sparte, le jonc, hein, qui est donc... Alors, est-ce que c'était la couleur de leur tunique? Est-ce que c'était les instruments qu'ils avaient, le seau en particulier, ou les cordages qui pouvaient être faits en Sparte? Bon, on n'en sait rien, et on a beaucoup discuté pour arriver à un compromis qui, à mon avis, entre tenue militaire et ce qu'on peut prêter aux vigiles, est un assez bon compromis, mais qui reste évidemment une hypothèse, et restera toujours une hypothèse.
Adules Quintes! Si quis vestrum magnam vitam vivere vult, enumisquam arma omitenda.
Bon, donc là, on les voit prendre un équipement qui est intéressant, à mon avis, comme hypothèse de travail, à une petite exception près. Vous allez les voir ramasser des couvertures, on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est par contre totalement aberrant. Bon, toujours dans le même ordre d'idées, ils avaient reconstitué...
Payer ce rêve au prix du sang.
D'entraînement. Bon, le premier personnage n'est pas terrible, le reste...
C'est ce jour-là, alors que le recrutement des vigiles se poursuit, qu'un coup de tonnerre ébranle l'Empire. Le préfet de Rome, l'un des plus hauts personnages de l'État, vient d'être assassiné.
La reconstitution est assez plausible, hein, disons. Ça me rappelle un peu le temps passé dans les commandos d'infanterie de marine. L'image est assez pauvre. Hein. Le camp est tout petit, il y a peu de personnages, il y a un manque de moyens qui décrédibilise un petit peu la scène. Dernier élément intéressant et positif, à mon avis, c'est l'idée que les vigiles devaient s'entraîner aussi à connaître l'espace dans lequel ils allaient évoluer, puisque contrairement à ce qui s'est dit toujours, et j'ai vu que ça traînait encore dans la revue, dans le dernier numéro de l'Histoire, ça m'a un peu hérissé, hein, les vigiles ne sont pas des pompiers, ne sont pas des sapeurs-pompiers. Quand le feu a pris une certaine ampleur, ils ne servent plus à rien. C'est en fait une milice du guet, une milice de surveillance, qui est destinée à patrouiller en permanence pour éteindre le foyer dès qu'il apparaît. Sinon, une fois que le feu est parti, hein, ils ne servent plus strictement à rien. Alors pour ça, il faut qu'ils connaissent l'espace.
Vigete quattro deciem regiones. Uniquaque e vigilarium tanquam nostro. Nunc animadvertete improbi.
Et ensuite, hein, il situe le temple de Vesta à la place du théâtre de Marcellus, ce qui est quand même gênant. Bon, donc ça, et la présence de la maquette, qui est assez improbable, hein, ils peuvent avoir des plans, mais pas des maquettes. S'il y avait eu cette relecture dont je passais tout à l'heure, je leur aurais dit non. Hein, parce que dès quelqu'un qui connaît la maquette de Rome, il voit bien que ça ne se situe pas au champ de Mars, le vélo. Voilà, donc ce type de petites erreurs, il y en a plusieurs, on ne va pas aller plus loin. Alors, le film est aussi un péplum avec une intrigue. Je vous en passe juste un tout petit extrait qui est celui où la jeune esclave chrétienne, enfin juive dans une secte chrétienne, rencontre son amoureux Vigile. Elle est esclave d'un marchand d'huile phénicien. Alors ça, c'est totalement irréaliste. Hein. Et ça repose sur une bêtise qui est l'histoire des quintonaries. Rome avait des vigiles, donc un corps d'armée, et les villes de province n'avaient pas de vigiles. Elles avaient ce qui est chez nous des pompiers volontaires, c'est-à-dire des gens qui étaient d'astreinte et qui étaient réquisitionnés en cas de besoin par la collectivité. Alors, pour avoir des gens d'astreinte, il fallait qu'ils soient structurés. Donc, on les empruntait aux collegia, c'est-à-dire à ces associations dont nous verrons tout à l'heure quelques images. Et parmi ces collégiens, il y avait les quintonarii, qui sont des chiffonniers. C'est-à-dire des gens qui recyclent des tissus, qui font avec ces tissus des espèces de couvertures ou de matelas. On ne sait pas très bien. Et alors, il y a quelqu'un, hein, dont je ne sais pas d'où vient l'idée, mais elle remonte au 19e, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. L'idée qu'ils étaient pompiers volontaires, donc ils étaient recrutés dans le collegium des quintonarii, étaient recrutés parce que les couvertures étaient utilisées pour lutter contre l'incendie. Ça, c'est stupide. En fait, les quintonarii sont des collèges qu'on voit à peu près partout dans l'Empire. C'était sans doute une corporation hein, utile et donc active. Et c'est par leur fréquence et leur dispersion qu'il faut expliquer leur utilisation comme pompiers volontaires. Il y en avait partout, donc on faisait d'abord appel à eux, pas du tout pour qu'ils utilisent leur couverture. Hein, donc là aussi, hein, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Un dernier élément, hein, une dernière critique qu'on peut faire à tous les péplums.
La propreté de la ville. Il faut remonter quelques années en arrière.
La rue est blanche.
Nous sommes en 61. Trois ans après l'incendie ne dévastera.
Et même la présence des ponts,
après l'assassinat de Jules César,
quelque chose de réaliste,
Auguste, le premier empereur, a mis en place un régime puissant et centralisé. La Rome impériale est opulente.
Bon, voilà donc un sentiment mitigé, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ce que je vais vous proposer en parallèle, c'est quelques éléments de cette série américaine, hein, réalisée par la firme HBO, et qui s'appelle Rome, et qui, à mon avis personnel, hein, c'est une émotion intime, est la meilleure image que j'ai jamais rencontrée de l'idée que je pouvais me faire de la Rome antique. Alors, il y a une disproportion de moyens. Il y a deux saisons, 12 épisodes, je crois, à la première, 7 ou 8 à la seconde, qui n'a pas été achevée parce qu'ils ont les décors qui ont brûlé. Chaque épisode coûte 10 millions d'euros, à peu près. C'est-à-dire la moitié du film de Anthony Mann, la chute de l'Empire romain, qui avait coûté 19 millions d'euros. Donc 220 millions d'euros. Ça situe les moyens et ça explique en partie la qualité du résultat. Donc, une mise en scène qui est beaucoup plus proche de ce qu'on peut imaginer, surtout à l'époque augustéenne, hein, puisque ça se situe à la transition entre César et Auguste. Rome est une ville grouillante, incontrôlable, un petit peu comme le sont aujourd'hui les grandes métropoles. Hein, Rome a 1 million d'habitants. La première ville qui aura 1 million d'habitants après Rome, c'est Londres au XIXe siècle. Donc c'est quelque chose d'hydrocéphale, hein, c'est une capitale hydrocéphale à l'intérieur de l'Empire, et ça ressemble un peu hein, aux capitales actuelles comme Mexico, Lagos, Le Caire, où il existe des zones de non-droit, des quartiers hein, où il n'y a pas de droit, où il n'y a pas de règles, et où tout est gardé, donc, par des... tout est réglé par des mafias. Alors, alors vous allez me dire, le début c'est un peu gore, cette tête, c'est pas vraisemblable. Souvenez-vous de Cicéron. Cicéron, on lui a coupé la tête pour la ramener à Rome, parce qu'on l'avait assassiné au bord de la mer. On l'a fait passer chez Fulvia, la veuve de Publius Clodius, qui lui a fait un piercing à la langue avec son épingle à cheveux. Et on est allé exposer la tête sur les rostres de César. Donc c'est réaliste. Hein. C'est même plutôt plus doux que le traitement infligé à la tête du brave Cicéron. Alors, on va voir maintenant deux petits extraits, enfin un cours un peu plus long, sur l'Aventin, la reprise en main de l'Aventin, des collégias de l'Aventin, qui sont des mafias, hein, en fait, qui tiennent l'Aventin, et Auguste envoie, enfin c'est Marc-Antoine dans le documentaire fiction, c'est, dans la réalité c'est Auguste hein, qui a réalisé cela, il essaie de reprendre en main ses collèges, de les contrôler par des hommes à lui. Donc l'image de l'Aventin est aussi une bonne image de Rome. C'est pas propre, c'est pas blanc, c'est pas en pierre. Donc les deux anciens soldats vont faire rentrer les chefs de bande et ils vont...
Le consul Marc-Antoine déclare que votre lutte pour le contrôle de l'Aventin est terminée. Toutes les violences doivent cesser.
Qu'il déclare ce qu'il veut, ça ne changera rien du tout.
Moi qui ai tué Erastes Fulmen... Je revendique le commandement du collège de l'Aventin qui me revient de plein droit. Je considère que l'Aventin m'appartient.
Tu n'as pas le droit de faire ça.
Et pourtant, je le fais.
Tu peux t'emparer du nid de ce vieux rat si ça te chante, mais tu n'as pas d'hommes. Ils sont tous morts ou alors en fuite.
Je trouverai des hommes. Rome n'est pas à court de vermine. Peut-être même que je recruterai chez toi.
Frère, souvenez-vous de la dame. Nous avons tous entendu parler de toi, Lucius Vorenus. Nous savons que tu es un homme sérieux. Nous avons pour toi tout le respect qui t'est dû. Tu ferais sans doute bien de nous retourner ce respect.
Je ne peux pas faire ça, mais je peux vous rétribuer, en revanche. Tous les membres du collège recevront la somme de 5000 denarii par mois, directement du consul Marc-Antoine lui-même, sous mon contrôle. En échange, il attend de vous que vous vous limitiez à vos traditionnelles libertés et méfaits. Rien qui puisse, disons, troubler le commerce ou la politique.
Rien d'autre.
Bien entendu, s'il y avait des violences parmi les civils, vous et les vôtres devrez prendre parti pour le consul. Je demande que vous reconnaissiez et acceptiez les présentes conditions.
5000 denarii. C'est une belle somme. En pièces ou en grains?
Comme vous voulez.
Êtes-vous des femmes pour qu'un seul aboiement de ce chien roux suffise à vous faire courber les chines?
Quel est ton nom?
Caius Ignus Acerbo. Capitaine des collèges d'Appian. Lucius, dis-nous pourquoi des hommes sains d'esprit et respectables comme nous traiterions avec une pauvre bête traquée comme toi?
Caius Ignus Acerbo. Tu poses une bonne question. Tous ceux qui ne traiteront pas avec moi seront mes ennemis.
Et alors?
Alors ils mourront bien plus tôt qu'ils ne le pensent.
Du calme, n'oubliez pas la concorde sacrée, pas de menaces.
La concorde.
Alors, je ne suis pas absolument certain que le sacrilège violent que commet le personnage à la fin soit tout à fait conforme à ce qui peut se passer dans une société qui est très étroitement encadrée par la religion. Mais la violence de la scène hein, et la violence des échanges est sans doute effectivement hein, ce qui s'est passé dans cette reprise en main des collégias. Alors bien sûr, ce n'est pas la concorde, hein, la statue des quartiers, ce sont les lares que Auguste va remplacer plus tard par ses propres lares, installant ainsi une religion impériale à l'intérieur de ces cadres. Ce qui est important, et que le film rend bien, c'est que le changement de la politique à partir d'Auguste, c'est qu'on va s'appuyer sur la réalité urbaine, c'est-à-dire sur ces quartiers qui sont tenus par des collégias, et non plus sur les cadres traditionnels, hein, les magistrats sénatoriaux comme les édiles, ou les cadres des tribus et des tribus traditionnelles qui divisaient Rome en quatre. C'est une prise de conscience de la réalité urbaine et une politique menée sur cette réalité urbaine avec la violence qui va avec. Alors, Ce réalisme, non pas de l'histoire, bien sûr, l'histoire est totalement fictive, on le retrouve dans le cadre des personnages. Je vous propose deux choses, si j'ai encore un peu de temps.
Non, pas de problème.
Avant et après la bataille de Pharsale, qui oppose Pompée et César. Alors, bien sûr, les dialogues sont fictifs, mais c'est les meilleurs portraits que j'ai trouvés de Pompée et de César. C'est un portrait en chiasme. Avant la bataille, on voit Pompée puis César. Après la bataille, on voit César puis Pompée. Et on voit l'opposition entre un homme vieilli, entouré de gens incapables, ou vieillis eux aussi, on va le voir à la fin de l'extrait, et en face, un personnage comme César qui exprime parfaitement une de ses deux qualités principales. À mon avis, César a deux qualités. La première, qui n'est pas dans le film, celle d'être un grand communicateur, la guerre des Gaules, la guerre civile. La seconde, c'est cette qualité militaire que les sous-officiers des commandos de marine dont je parlais tout à l'heure parlaient souvent, c'est-à-dire la baraka. La baraka, ça veut dire la chance en arabe. En fait, c'est une qualité militaire qui s'approche de l'autisme. Ce sont des gens qui n'ont pas d'émotion, ce sont des gens qui n'ont pas de réflexion intellectuelle, d'analyse intellectuelle des situations, mais qui, en revanche, comme tous les autistes, ont une perception beaucoup plus rapide du temps et de l'espace, et qui n'ont aucun temps intermédiaire entre la perception et la décision. Donc ça leur fait tenter des coups impossibles. Et César, la principale qualité militaire de César, c'est celle-là. Ses récits militaires le montrent. C'est un personnage qui agit vite, y compris de façon insensée, ce qui est le cas à Pharsale, où il va affronter Pompée en infériorité numérique et dans une situation où ses hommes sont mal en point. Les personnages sont, à mon avis, parfaitement campés. Donc ça, c'est avant la bataille, et d'abord Pompée.
Dis à Rome que le combat dont son sort dépend commence aujourd'hui.
Donc un personnage inquiet et interrogatif.
Ça y est, Pompée a déployé ses légions en ordre de bataille, César.
Merci, Fluvio. As-tu oublié comment on salue ?
Non, César. Je n'ai aucune excuse.
Gracchus, sonne le rassemblement ! Que Xéno selle mon cheval.
Oui, César.
Parce que tu acceptes de te battre ?
Bien sûr, pourquoi pas.
Mais parce que nous sommes à 1-3 à pied et à 1-5 en cavalier, et que les hommes valides qui nous restent sont affamés, terrorisés et épuisés.
Raison de plus pour nous dépêcher de rentrer chez nous.
Je ne savais pas que l'ironie était un atout militaire.
Nous devons vaincre ou mourir. Pompée et ses hommes ont d'autres options.
Se profiler la Fortuna, enfin l'image de la Fortuna Caesaris, qui exprime assez bien le personnage. Après la bataille, donc César puis Pompée, cette fois-ci.
Fais dire à Rome que César a vaincu.
Retour à la position de départ.
Général, les hommes de César arrivent.
Je me suis coupé à la main.
Il faut y aller, général. Ils vont te capturer.
Ce n'est pas profond, mais c'est douloureux.
Ils vont te tuer.
Ça n'a aucune importance.
Nos troupes sont en déroute. Qu'allons-nous faire ?
Bon, ça, c'est Cicéron.
Combattre encore un jour,
Scipion.
Ça ne fait aucun doute.
Et vaincre, surtout.
Et vaincre, Caton. Bien entendu. Mais pour l'instant, nous devons songer à notre sécurité.
Notre sécurité n'est rien. Nous devons quitter la Grèce et recruter des troupes fraîches.
Et peut-on savoir où ?
En Afrique.
Nous devons rallier les villes africaines.
Ah, l'Afrique. Bientôt, nous n'aurons plus aucun continent où aller.
Et plus d'argent. Tout cet argent que nous avons prélevé en Grèce a été dépensé jusqu'à la dernière drachme. Quelle monnaie utiliser pour acheter leur loyauté? Des coquillages?
Nous n'avons pas à l'acheter. Nous sommes le Sénat de Rome.
Nous sommes des vieillards crottés jusqu'à l'os.
Tant que nous sommes en vie, nous ne sommes pas vaincus. La République vivra aussi longtemps que nous.
Tu peux continuer à te battre si tu le désires. Quant à moi, je vais de ce pas me rendre à César.
Tu n'as donc aucune dignité, aucun honneur.
Oh, j'espère en avoir un peu. Bien sûr, pas autant que toi.
César te tuera.
Oui, c'est probable. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'en peux plus. Je veux rentrer chez moi.
Mais je ne m'étais pas trompé. Brutus, sans la puissance de ton nom, jamais la cause de la République...
La cause de la République! C'est à moi que tu oses en parler! Si j'avais su quelle bande de vieux séniles et quelle nourriture infâme j'allais devoir supporter! Si j'avais su quel genre de pauvre fou est Pompée! Jamais je ne serais parti de Rome! Pardonne ma colère. Je ne suis plus moi-même.
Non, ne crois pas ça. Je mérite ta déception.
C'est un des plus beaux portraits que j'ai jamais vu, hein, de César et de Pompée, même si je pense que... si je suis sûr que les discours sont évidemment totalement fictifs. Alors en conclusion, je vous propose le générique de la série et je vous dirai deux mots là-dessus. Donc ce générique me paraît une parfaite illustration symbolique de la réalisation de la série. Il repose sur de vraies images antiques, dont l'authenticité est incontestable, hein, des graffitis, des peintures, des mosaïques, pour la plupart empruntées à Pompéi. Des images dans lesquelles la fiction donne vie en les animant, en les faisant bouger. Le procédé nous projette dans un univers violent, obscène, inquiétant, voire fantastique, forcément proche de l'imaginaire antique puisque les images lui appartiennent, des images auxquelles la fiction s'est contentée cette fois-ci de donner du mouvement. Ces personnages, ces animaux et ces monstres animés ont tous des contours et des mouvements qui sont nets dans le générique. Alors qu'en revanche, passent à côté d'eux des hommes, des femmes, des enfants qui sont flous, fugaces ou tronqués. On les voit à peine ou on les voit de façon floue. Alors cela, ces personnages, représentent la réalité antique, celle qui nous échappera toujours parce que nous ne pouvons la recréer que par le discours, en donnant des noms aux gens qui sont plus ou moins exacts, en décrivant des actions dont nous n'avons que une très vague idée. Par contre, l'imaginaire antique est net et animé. Le spectateur a avec lui un contact direct, dépourvu de l'intermédiaire du discours. Ce contact direct provoque un choc, une émotion violente, une perception immédiate, hein, Donc le processus nous entraîne par le rêve, le fantasme, comme le disait hier Claude Aziza, à ressentir directement une réalité au lieu de la décrire. Rêver ou cauchemarder la réalité pour en accroître la perception, c'est le propre de l'art. Et le cinéma est un art, il doit le rester. Et ne pas chercher, à mon avis, à s'hybrider dans un exercice pédagogique qui sera forcément décevant.
Merci beaucoup. Voilà, j'ouvre le débat. Si vous souhaitez avoir des précisions, vous avez devant vous le spécialiste, l'historien de Rome. Vous êtes amateur de péplum. Entre les deux, dialogue.
J'aurais juste une question, excusez-moi. Au sujet de la série Rome, je suis ici. Voilà. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la surdimension accordée à Atia, notamment dans cette série, qui... je le suppose, ne joue que très peu de rôle au niveau des sources. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui concerne Atia, mais Atia a un rôle plus que discret au niveau de l'histoire et son rôle est fondamental dans cette série. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de ceci et également de l'aspect un peu névrosé d'Auguste, enfin du jeune Octave, en tout cas.
Alors, sur Atia, bon, vous avez tout à fait raison, d'Atia, on ne sait rien. Alors qu'elle joue un personnage fondamental dans la série, c'est elle qui elle mène des intrigues politiques. Donc le personnage est sans doute faux sur le plan de la description. Je veux dire par là que la seule chose qu'on sache de la famille du jeune Octave, c'est qu'après l'assassinat de César, ils lui ont fortement déconseillé, en particulier le mari d'Atia, Marcius Philippus, lui a fortement déconseillé d'accepter l'héritage parce qu'il allait se frotter à plus fort que lui, Marc-Antoine et puis la vieille aristocratie sénatoriale. Donc, Atia est un personnage totalement imaginé. Mais, en même temps, c'est une excellente représentation de la place de la femme à Rome dans la politique romaine. Il y a à côté d'Atia Servilia, qui, elle, a joué effectivement le rôle qu'on lui fait jouer. Et ces femmes qui sont à la fois les éducatrices des enfants quand ils sont jeunes et donc qui gardent une relation, hein, pensez à Cornelia et au Gracque, et une bonne partie de la politique se fait à l'intérieur des grandes demeures sénatoriales qui sont à la fois publiques et privées, hein, l'atrium des grandes familles sénatoriales qui devient surdimensionné à la fin de la République. Hein, pensez que la maison de Pompée a un atrium plus grand que le Forum romain. Pourquoi ? Parce qu'il y passe beaucoup de monde. Eh bien, à l'intérieur de ces maisons, c'est la maîtresse de maison qui joue un rôle fondamental. Et donc, bien sûr, Atia n'a sans doute pas joué ce rôle-là, mais elle est une bonne image générique, je dirais, de ce rôle des femmes dans la politique romaine. Sur Octave, je trouve qu'il est très bien fait. C'est-à-dire qu'Octave est un personnage à la limite de la schizophrénie, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est fragile physiquement, qui a facilement peur, qui est superstitieux, qui le sera jusqu'à la fin de sa vie, qui est un piètre militaire, même un lamentable militaire, on l'accuse d'avoir fui à la bataille de Philippe. Mais en même temps, c'est un personnage qui est animé d'une volonté farouche et qui n'a aucun scrupule. En particulier, le meurtre du mendiant dans la série Rome me paraît un acte qu'on peut tout à fait prêter à Octave. Donc je pense que c'est... Encore une fois, le détail importe peu, puisque c'est une fiction et qu'elle ne prétend pas coller au détail. Mais je pense que c'est un beau portrait d'un personnage à deux facettes qu'il essaiera de gommer ou de coupler une fois après 22 avant notre ère, à partir du moment où il va dire « je suis celui qui a apporté la paix ». Il se débarrassera de cette partie violente de sa jeunesse, les proscriptions, c'est lui qui fait tuer Cicéron avec Marc-Antoine et 10 000 individus. Il est sans scrupules avec ses ennemis et je pense que c'est assez bien rendu dans la jeunesse du personnage.
Moi, ce n'est pas vraiment une des questions parce que j'étais aussi très, très sensible à cette série qui est vraiment formidable sur beaucoup de points. Je voudrais juste signaler que je crois qu'HBO a renoncé à poursuivre le projet, faute de financement, parce que c'est tellement colossal qu'ils ne s'en sortaient pas.
C'est pas faute de financement. C'est en fait que leur décor, l'intégralité de leur décor a brûlé.
Oui, en plus,
et donc, ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient pas l'argent pour refaire le décor, et donc ils ont interrompu.
Et par ailleurs, alors ça c'est assez amusant, quand ils ont monté le projet, ils n'avaient pas trouvé d'acteurs américains qui voulaient prendre les rôles-titres. Donc du coup, les rôles-titres, ce sont tous des Anglais qui ont accepté de jouer dans la série. Alors maintenant, les acteurs américains, bon, qui sont souvent dans les grosses séries d'HBO notamment, hein, puisqu'ils ont fait pas mal de séries qui ont bien marché, certains s'en mordent les doigts, parce qu'effectivement, c'était un bon tremplin de carrière, hein, pour certains de ces acteurs.
Je pense que les consultants de la série, les consultants scientifiques, sont très britanniques dans leur approche de l'histoire romaine. Ils ont une approche qui est très... Au fond, Ronald Syme, celui qui a écrit la Révolution romaine, aurait pu dessiner Pompée et César exactement de cette façon-là. C'est d'ailleurs comme ça qu'il les présente dans son livre.
C'est une remarque que j'allais faire. Non, une question.
Merci. Une remarque et une question. La remarque à propos, par exemple, du débat sur la rue à Rome, je sais que les 17e-istes, à propos des films, pas péplum, mais KPDP, comme on dit, débattent souvent sur la manière de montrer les campagnes ou les villes dans les films de KPDP. Et je me souviens que le grand 17e-iste qu'est Pierre Goubert avait dit à propos du film Molière de Mnouchkine, il a dit, c'est peut-être avec ce film que je touche ce que pouvait être, par exemple, dans la scène d'Orléans, le carnaval d'Orléans, ou dans les rues de Paris où le jeune Molière vit, ce que pouvaient être les villes du royaume au XVIIe siècle. Et je pense que là, entre le regard des antiquisants et le regard des modernistes, il pourrait y avoir des parallèles possibles. La question à propos, effectivement, de la série, est-ce qu'elle a bénéficié de conseils d'historiens reconnus de Rome? Et puis, une autre question, quelles sont les sources, bon, je pense spontanément à Juvénal, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, qui nous permettent de connaître ce que pouvait être la rue de Rome? Est-ce qu'il y a des textes qui s'attardent sur cet aspect?
Alors, sur la deuxième question, les sources, il y a Martial, il y a Juvénal, effectivement, mais il y a aussi les textes juridiques. Si, par exemple, on trouve autant de lois qui interdisent l'utilisation des trottoirs par les marchands, ça veut dire que les marchands empiétaient constamment sur les trottoirs. Et puis, il y a des textes, alors, à partir de l'époque augustéenne, hein, sur la façon dont des quartiers comme Subur, par exemple, hein, sont dépouillés, on chasse les gens du quartier, hein, on le rase pour y installer après, plus tard, le forum de Domitien. C'est une réoccupation d'espace qu'on décrit effectivement comme extrêmement violent. Sinon, sur les collegia, il y a les discours de Cicéron dans les Catilinaires. Il dit qu'il y a des hordes de gens qui viennent avec des bâtons, des épées, qui affluent sur le forum. Et le jour de la discussion, le jour où il soutient, il prononce ses catilinaires au forum, il a une cuirasse sous sa toge, parce qu'il a peur de se faire tuer en sortant. Il n'y en a qu'un qui est mentionné, qui est quelqu'un que je ne connais pas, qui est un Américain, mais visiblement, ils sont très inspirés par les thèses britanniques, donc de Syme en particulier.
Je me permets une question, justement, sur les aspects historiques. Tu as passé tout à fait à la fin l'ensemble du générique, et nous avons tous noté cette musique orientale ou orientalisée, orientalisante. Est-ce qu'elle illustre parfaitement l'aspect de Rome à ce moment-là, ou est-ce que ce n'était pas un peu forcé, le trait?
C'est sans doute forcé. Je ne pense pas que la musique représente vraiment l'aspect de Rome à ce moment-là. Hein, même si Rome est déjà une ville ouverte, hein, une ville où afflue un nombre de populations, encore une fois, considérable, hein, entre 800 000 et 1 200 000, suivant les évaluations, donc autour d'un million d'habitants. Ce qui est logistiquement, hein, ingérable pour une société antique.